Mal dormi? Réconciliez-vous enfin avec votre literie. Grâce au confort Tempur, votre matelas s'adapte à votre corps pour un sommeil de rêve. Pour son anniversaire, Tempur vous offre du confort en plus. Profitez-en. Jusqu'au 25 mai, agrandissez votre literie à prix unique. Voir conditions et listes des revendeurs participants sur Tempur.com.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
La Bastille dévoilée par ses archives, c'est le titre d'un ouvrage que viennent de publier les éditions Omnibus et son auteur Claude Quettel est l'invité de Franck Ferrand aujourd'hui sur Europe 1. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Je ne pense pas qu'il ait jamais existé en France de monument plus symbolique que la forteresse de la Bastille. Cette forteresse investie par la foule, vous savez, le 14 juillet 1789 est démolie dans la foulée. Symbole de l'arbitraire et du pouvoir absolu, un symbole tellement massif en vérité que l'on a raconté à son sujet à peu près tout et n'importe quoi.
Et j'imagine du coup que vous allez redresser les idées fausses selon votre habitude.
Bien entendu. Surtout, grâce au travail de fourmi accompli par Claude Quettel, nous allons pouvoir vous donner de la Bastille une image enfin juste, vivante, proche de ce qu'était dans la réalité cette prison d'État. Vous allez voir que ces cellules étaient peuplées de toutes sortes de personnes. Il y avait des conspirateurs, des jeunes gens endettés ou considérés comme débauchés, des escrocs, des aventuriers, des tenancières, des individus qui tout simplement dérangeaient la société ou inquiétaient le pouvoir royal.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
À propos de la Bastille, j'ai toujours à l'esprit une conférence absolument magnifique qui avait été prononcée, il y a 20 ans de ça, par Jean Favier, le grand médiéviste, qui à l'époque était le directeur des Archives nationales. Je le salue chaleureusement s'il nous écoute. Jean Favier, racontant la construction de cette forteresse qui défendait la porte orientale du nouveau rempart de Charles V, la Bastille Saint-Antoine donc, faisait soudain remarquer que la plupart des défenses de la forteresse étaient orientées non pas vers l'extérieur de Paris, mais vers l'intérieur, vers le faubourg, et que dès lors, on pouvait conclure qu'elle avait été bâtie moins pour défendre la capitale d'une éventuelle attaque venue de l'extérieur que pour protéger la cour appelée à fuir éventuellement en direction du donjon de Vincennes, une capitale réputée propice aux émeutes et aux soulèvements. On sortait alors tout juste de la révolution d'Étienne Marcel, vous savez, et le roi Charles V, surnommé le Sage, savait qu'il fallait de temps en temps pouvoir se protéger des Parisiens. Cette forteresse du faubourg est de Paris, édifiée donc pour des raisons militaires, n'a été transformée que bien plus tard, à l'époque moderne, en prison d'État. C'est ici qu'on enfermait les prisonniers personnels du roi. Alors pourquoi est-ce que je dis personnels? Eh bien parce que le souverain les assignait ici, on choisissait des sujets en quelque sorte, sans aucun procès, au seul nom du droit de faire justice, qui était l'un des droits du roi. Les actes en vertu desquels les prisonniers du roi étaient conduits à la Bastille s'appelaient des lettres de cachet. Et vous savez que Claude Quettel est un spécialiste de ces fameuses lettres de cachet. Il s'est penché sur cette forme de justice, à nos yeux bien arbitraire. Et ce qu'il faut comprendre, avant de parler avec Claude Quettel de toute cette histoire de la Bastille, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne sait pas à l'époque, lorsqu'on est à l'extérieur, on ne sait pas qui se trouve à la Bastille et on sait encore moins pourquoi. Vous imaginez évidemment quel terrain tout cela peut former pour les fantasmes et les rumeurs. Un certain Simon Linguet publie en 1783 ses mémoires sur la Bastille. Il faut dire qu'il a été lui-même en Bastillé, il sait de quoi il parle. Le livre a un succès extraordinaire. Dans ce pamphlet, il dénonce les conditions de détention à la Bastille, où il affirme avoir souffert le martyre. La Bastille, prison du roi, serait, si l'on en croit Linguet, une sorte de tombeau où l'on est enseveli vivant. L'opinion s'empare du pamphlet pour dénoncer les attributs de l'arbitraire et les lettres de cachet, notamment les lettres de cachet en blanc, les tortures, les exécutions sommaires, etc. Tout ça, bien évidemment, n'existe que dans l'imagination des gens. Mais néanmoins, ça va avoir un impact considérable et ça va avoir des conséquences politiques énormes. quelle était la vie quotidienne des prisonniers de la Bastille? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir en compagnie de Claude Quettel. Je suis presque certain que vous n'êtes pas au bout de vos surprises.
Sur Europe 1 des variations Goldberg composées par Bach. À tout de suite pour toute la vérité sur la Bastille.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec votre invité aujourd'hui sur Europe 1, l'historien Claude Quettel, grand spécialiste de l'enfermement sous l'Ancien Régime, auteur notamment de La Bastille dévoilée par ses archives chez Omnibus.
Bonjour Claude Quettel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ici. Alors vous venez souvent nous parler de la Seconde Guerre mondiale, etc. On sait tout ce que vous avez pu faire pour le mémorial de Caen notamment. Mais là en l'occurrence, nous parlons de votre autre grande spécialité, c'est-à-dire cette question de la Bastille, des lettres de cachet, etc. C'est un univers foisonnant, extrêmement exotique pour nous finalement que cette Bastille. Et vous nous la faites découvrir à travers des archives très importantes. Vous avez puisé dans un fonds gigantesque, c'est plusieurs centaines de milliers de pièces d'archives.
Le fonds principal à l'Arsenal, c'est 500 000 pièces, oui. Mais périphérique. Autre fonds d'archives, 300-400 000, on est à 1 million de pièces. Quoi.
C'est extraordinaire. Alors dans ce fonds gigantesque, vous avez évidemment sélectionné ce qui nous permet de toucher du doigt ce qu'était en fait la vie à la Bastille. Alors ce qu'il faut dire d'abord, c'est que ces fameuses archives, elles ont eu un sort étrange parce que le jour même de la prise de la Bastille, le soir même du 14 juillet 1789, évidemment, les archives sont complètement dispersées. On les jette à tout vent, les gens en prennent pour eux. C'est une véritable gabegie, en fait. Hein.
Oui, c'est la fureur. Tout est jeté dans les fossés, meubles, vaisselle, archives. Mais les collectionneurs arrivent.
Ah oui.
À commencer par Beaubarchais.
Qui habitait tout près, faut dire.
Qui habite tout près, qui se sert lui aussi largement. Et puis, au bout d'un certain temps, 3, 4 jours, 5 jours, le comité de l'hôtel de ville s'avise que ce sont des archives très précieuses qui vont prouver la méchanceté de l'Ancien Régime, la cruauté de l'Ancien Régime. Et alors, il y a une espèce d'appel au peuple avec beaucoup de dénonciations de voisins, dont Beaumarchais lui-même est victime. Il dit « Je veux bien rendre, mais pas tout seul ». Et puis donc, tout le monde rend et c'est le début de ce fonds principal énorme.
Qui se trouve aujourd'hui à la bibliothèque de l'Arsenal.
La bibliothèque de l'Arsenal et qui, par parenthèse, est un peu contradictoire avec la légende d'une Bastille prison secrète.
Alors qu'y a-t-il dans ces archives? Parce que c'est bien beau de dire des archives, mais ce sont des registres, ce sont des journaux de prisonniers, ce sont des témoignages, de la correspondance, qu'y a-t-il?
Tout cela, mon capitaine. Tout cela et plus encore. Alors oui, d'abord des registres, de la correspondance avec Versailles, des lettres de prisonniers, des rapports sur le moral des dix prisonniers, et puis surtout, je dirais surtout du point de vue de l'intérêt pour l'historien, les rapports de police. Le personnage principal, invisible, enfin très visible à l'époque, c'est le lieutenant général de police de Paris, qui fait la navette, au moins épistolaire, entre la Bastille et Versailles, et qui est sous l'œil du roi, comme d'ailleurs la Bastille. Donc ce sont des archives très très diverses, très complète, très contradictoire, donc le bonheur pour l'historien.
Évidemment. On a donné très tôt à cette Bastille une légende, une réputation absolument terrible. On en a fait l'incarnation même de l'absolutisme. Il y a eu beaucoup de souffre autour de la Bastille, comme si en quelque sorte c'était un lieu secret, comme si les gens qui se trouvaient embastillés étaient hors de toute forme de contrôle. Qu'en est-il en réalité?
Oui, ce souffre, comme vous dites si bien, commence dès avant la Révolution. La Bastille est mal vue, elle est en plein Paris, il y a d'autres prisons d'État.
Les huit grandes tours de la Bastille
dans la France
étendent leur ombre sur tout l'Est de Paris.
Alors que Vincennes, qui est l'annexe de la Bastille est à la campagne.
Mais c'est ça, c'est loin.
Le donjon de Vincennes. Et ne parlons pas du Mont-Saint-Michel, complètement inconnu du point de vue de la prison, qu'on appelle la Bastille des Mers, où le régime est très sévère, à la différence
bien
de la Bastille.
Bien pire encore qu'à la Bastille, sans
mais
comparaison.
Mais là, ça énerve les Parisiens, parce que c'est en plein Paris. Et puis, c'est en quelque sorte la démonstration du pouvoir du roi. Donc, c'est mal vu dès avant la Révolution. Alors, quand la Révolution arrive, quelle aubaine que cette Bastille qu'on va pouvoir brandir comme justement la preuve du despotisme royal.
Mais c'est une prison d'État, donc c'est tout ce qu'il y a de plus officiel, évidemment.
Mais hein, complètement officiel. Il y a une bonne vingtaine de prisons d'État dans le royaume, mais il y en a beaucoup qui sont aux frontières, dans les Pyrénées, dans les Alpes.
Et c'est vrai que celle-ci, elle est très visible. Elle est trop visible.
Celle-là est très visible, et alors du coup, les esprits éclairés du XVIIIe siècle lui prêtent une espèce de fonction de prison politique qu'elle n'a pas ou qu'elle a, quoi, 15%, 10%.
Alors voilà, ça on va y venir, bien sûr, on va voir qui était incarcéré à la Bastille et pourquoi. Ça c'est même le cœur même de votre ouvrage et c'est ce qu'il y a de plus passionnant. Avant ça, revenons peut-être d'un mot sur l'histoire de cette Bastille. J'ai dit qu'elle a été construite sous Charles V. Elle devient assez vite un entrepôt pour des armes. Oui. Elle devient un lieu de dépôt d'or également, hein, oui. sous Henri IV.
Oui.
Il faut dire que Sully est à l'arsenal, tout près de là. Aussi,
oui, le coffre-fort. Un coffre-fort royal, parce que c'est quand même une énorme construction en plein Paris. Et puis, au fur et à mesure qu'en quelque sorte la prison, la Bastille militaire vieillit, la prison grandit.
Et voilà.
C'est-à-dire qu'on commence à dire, ah bah tiens, là il y aurait peut-être un peu de place pour tel ou tel prisonnier. Et dès Louis XI,
ah oui.
Lui aussi très mal réputé dans l'historiographie.
Les gens de noir.
Quelques prisonniers, 3-4. Et puis au XVIe siècle, 7-8. Et il faut attendre Louis XIV pour qu'on en arrive, je dirais pas au plein emploi, mais presque à 30-40. Et la Bastille ne connaîtra jamais plus que 50 ou 60 prisonniers à la fois.
Alors justement, qui étaient ces prisonniers? C'est ce que nous allons voir dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Et Franck et son invité nous racontent aujourd'hui La Bastille.
Et oui, avec Claude Quettel qui donc publie chez Omnibus La Bastille dévoilée par ses archives. Et vous avez là-dedans des interrogatoires, des rapports de police, des dénonciations, des témoignages, de la correspondance qui nous font vraiment vivre La Bastille au jour le jour. Et comme le livre est très épais, on est dans cette collection Omnibus, on a le temps d'entrer dans... C'est ça qui est extraordinaire, hein, c'est qu'on entre dans le quotidien des prisonniers de La Bastille. Alors, qui étaient-ils ces prisonniers? Vous nous dites, Claude Quettel, qu'au plus fort, hein, lorsque La Bastille est pleine, en quelque sorte, il y a une cinquantaine de personnes à
oui,
peu près.
50-60 maximum.
Ce qui veut dire, alors vous nous avez donné les chiffres là en préparant cette émission, sous Louis XIV il y avait 2000 en tout hein, sur l'ensemble du règne, 2320 personnes qui ont été embastillées sous la Régence et le cardinal de Fleury, 1459 quand même, ce qui est énorme.
En proportion c'est beaucoup.
Oui c'est beaucoup.
C'est le même
sous Louis XV, 1194 seulement et pourtant le règne de Louis XV dure une cinquantaine d'années hein. Et puis alors seulement 306 sous Louis XVI, d'ailleurs disons clairement que cette Bastille, il était prévu de la démolir. Elle était vraiment sur la fin de sa vie hein, au moment de l'insurrection du 14 juillet.
Oui, tout à fait. Il y a des plans d'urbanisme qui datent de 1783 et qui prévoient que la Bastille doit être rasée.
C'était déjà l'entrepreneur palois qui devait s'en charger.
Pas encore, mais ça va venir. Et donc de construire une place de Louis XVI. Qui est très exactement aujourd'hui la place de la Bastille.
C'est quand même ça, c'est une ironie de l'histoire. Cette place de la Bastille, qui est le symbole non pas d'une mais de deux révolutions, puisqu'il y a aussi maintenant la colonne de juillet 1830, cette place révolutionnaire de la Bastille aurait dû s'appeler la place Louis XVI normalement.
Oui, hein, et ça a été la grande erreur du pouvoir royal, c'est que en fait elle ferme Vincennes, puisqu'il y a, comme vous venez de le dire, de moins en moins de prisonniers par l'aide de cachet, enfin, à l'initiative du roi. À l'initiative des familles, c'est une autre question. Et elle laisse en fonction la Bastille. Elle aurait, du point de vue du pouvoir, elle aurait dû faire le contraire. Elle aurait dû raser la Bastille et laisser le Vincennes en fonction.
Ça aurait été plus malin, effectivement. Alors, les prisonniers qui sont à la Bastille sont, pour certains, des prisonniers politiques. Il faut quand même le dire. Combien sont-ils à peu près, la proportion?
Ce ne sont pas les plus nombreux. Justement, ça a été pour moi une découverte de faire un travail quantitatif, statistique, et de m'apercevoir que c'est de quatre grandes catégories. Les droits communs, très larges. Hein, la religion, très large. Les délits de librairie, très large. Tout ce qui est autour du roi et qu'on pourrait appeler politique, encore que qu'est-ce qu'on met dans ce mot-là, parce que un mousquetaire qui dérange un petit peu la cour, est-ce que c'est politique? Ce n'est que quoi, 20%, 21%. Donc 80% des motifs d'embastillement ne sont pas politiques.
Mais ce qui est très intéressant et vraiment exotique pour nous qui sommes habitués à un système judiciaire très différent, avec des peines judiciaires en fonction de délits et de crimes, etc., c'est que la plupart des gens qui sont à la Bastille ne sont pas à la Bastille pour des crimes avérés, mais parce, en quelque sorte parce qu'ils gênent. Ils gênent leur famille, ils gênent la société, ils gênent l'ordre public, ils gênent le pouvoir.
Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à comprendre.
Mais oui.
Ça n'est pas du tout dans la culture du droit, du code. On est dans le système de la correction où le roi est le suprême père de famille, le père de famille de tous les pères de famille.
C'est ça.
Et par conséquent, il fait régner une morale, un ordre, et qui est le chef suprême de toute chose, y compris de la justice, et qui par conséquent peut envoyer en correction, pas en punition. C'est tout le problème. Et c'est ça qu'on a reproché dès avant la Révolution, j'y insiste, à la lettre de cachet, c'est que elle n'a pas de terme. Ça n'est pas une peine de correctionnelle. La correctionnelle n'existe pas sous l'Ancien Régime. C'est ça le fond du problème.
Il y a des châtiments corporels, mais il n'y a pas de peine de prison correctionnelle.
Donc, vous pouvez sortir au bout de 2 mois. D'ailleurs, la plupart des gens sortent de la Bastille en moins de 2 mois, mais vous pouvez y rester 35 ans.
Alors, c'est ça. J'avais raconté, vous étiez d'ailleurs mon invité ce jour-là, j'avais raconté le cas de Latude.
Ah, Latude.
Le pauvre Latude qui avait monté une espèce de machine à explosion pour se faire bien voir de Madame de Pompadour.
Un faux colipier.
Voilà, ça lui est retombé dessus, et il est resté pendant des décennies à la Bastille.
Mais oui, mais je dirais, c'est normal, si je peux me permettre. Écoutez, voilà quelqu'un qui fait croire à un complot, et puis qui ensuite, d'abord se rend insupportable à la Bastille, qui s'évade, vous imaginez,
je ne sais plus combien de fois,
un des seuls à s'évader de la Bastille. Imaginez que vous êtes le roi ou le lieutenant général de police de Paris, si ces rôles ne vous gênent pas trop. Mais vous seriez content ? Eh ben, il n'était pas content.
Donc on le remettait à chaque fois.
On le laisse prisonnier au lieu de se faire pendre ailleurs.
Alors, il faut bien expliquer que la Bastille n'est pas un... Il ne faut pas imaginer des cachots avec des fers, etc. On mène une vie qui est relativement civile, j'allais dire agréable, c'est peut-être un peu excessif, mais en tout cas, on vit une vie presque normale à l'intérieur de la Bastille. Notamment, les nobles qui sont incarcérés arrivent là avec leurs cuisiniers, leurs domestiques, enfin c'est assez étonnant.
Oui, c'est tout le privilège d'être emprisonné à la Bastille. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est le Club Med. Quand vous êtes prisonnier quand même.
Mais ça, par définition, vous êtes privé de liberté.
Sauf que prisonnier du roi à la Bastille, par rapport aux malheureux qui sont justement au Mont-Saint-Michel, qu'on appelle la Bastille des Mers, vous avez un prix de pension 10 fois supérieur. Ce qu'on appelle le pain du roi est 10 fois supérieur. Donc pour ce prix-là, vous êtes mieux logé, vous êtes mieux nourri, vous êtes mieux habillé, vous buvez un meilleur vin, et même on est un petit peu, je dirais, à votre écoute. Vous voulez des nouveaux chaussons, une nouvelle robe de chambre, on vous la donne dans les 8 jours qui viennent.
Alors ce qui est assez étonnant, parce qu'on se rend compte de ça quand on lit les différents témoignages qui parsèment votre ouvrage, c'est que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. D'abord, certains sont plusieurs par cellule, c'est un peu comme dans les cliniques ou les hôpitaux d'aujourd'hui, si je puis dire, on est seul ou pas dans les cellules.
C'est vrai. C'est vrai que selon que vous serez puissant ou misérable, comme dit La Fontaine, vous gardez votre statut quand vous entrez dans la Bastille. Et vous n'êtes pas un matricule comme un prisonnier d'aujourd'hui. Donc le cardinal de Rohan qui arrive à la Bastille, évidemment, reste le cardinal de Rohan. Et donc, en fait, au-delà d'une allocation...
C'est-à-dire que le statut social, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui dans nos prisons modernes, le statut social est conservé.
Mais bien sûr. Toujours dans cette logique de l'Ancien Régime, vous êtes en correction. Oui, vous n'êtes pas en punition. D'ailleurs, on ressort de la Bastille sans être entaché d'opprobre ni de mauvaise réputation. Donc, par contre, alors, si vous êtes riche, vous avez le droit, comme on dit aujourd'hui chez les prisonniers, de cantiner. C'est-à-dire que si vous estimez que votre allocation de bois n'est pas suffisante, vous en commandez en plus.
Alors, qui étaient les plus célèbres des 6000 et quelques prisonniers de la Bastille au total, sur l'ensemble des 4 règnes? Qui étaient les plus importants, ceux qui ont laissé un nom? Nous voyons ça dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1 au cœur de l'histoire.
Cet après-midi sur Europe 1, nous vous racontons la Bastille qui, avant d'être démolie, avait été la prison de Voltaire, de Damien, du cardinal de Rouen et même du marquis de Sade.
Alors voilà, justement, ces noms célèbres, ce sont ceux évidemment qui restent attachés à la Bastille. On a parlé du cardinal de Rouen tout à l'heure. Disons un mot de Voltaire, par exemple. Tout jeune Voltaire.
Voltaire connaît la Bastille non pas une, mais deux fois. Une première fois en 1717, 11 mois quand même, pour avoir commis de mauvais vers, pas mauvais vers, du point de vue politique. Oui. du point de vue littéraire, c'est toujours formidable. Et puis, contre le régent, des méchants vers, oui. Et puis, en 1726, 12 jours pour une bagarre avec
une haute personnalité. Oui.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que, effectivement, d'abord, c'est la Bastille qui va en quelque sorte le lancer dans le monde des lettres. C'est à ce moment-là qu'il prend
le nom de Voltaire. Ça fait sa publicité, en quelque sorte.
Il crée d'ailleurs le verbe embastiller.
Ah oui.
Dans un poème qu'il écrit, me voici donc en ce lieu de détresse embastillé, logé fort à l'étroit, ne dormant point, buvant chaud, mangeant froid. Bon, là on retrouve évidemment l'ironie de Voltaire. Par contre, ce qu'on sait moins à propos des lettres de cachet, c'est que sur son troisième âge, dirons-nous, il demande lui-même une lettre de cachet contre sa logeuse rue de Vaugirard qui l'empêche de dormir. Bon, c'était juste une parenthèse.
Mais ça c'est le retour de... c'est l'ironie de l'histoire. Si
tout à fait. Ça prouve quand même que l'aide de cachet est très acculturée sous l'Ancien Régime. En tous les cas, lui, deux fois embastillé. Et donc faisant la réputation de la Bastille et la Bastille faisant sa réputation.
Un autre qui a été deux fois embastillé, c'est le plus célèbre des libertins du XVIIIe siècle français. C'est le célèbre duc de Richelieu, qui plus tard sera premier gentilhomme de la chambre de Louis XV et Louis XVI, un très grand personnage. Mais avant d'être duc de Richelieu, il était duc de Fronsac, il est tout jeune. Et il passait son temps à engrosser les amis de sa mère. C'est un peu embêtant quand même.
Oui, c'est tout à fait embêtant. Et donc, alors, ça montre bien la diversité des prisonniers de la Bastille. Là, on est dans vraiment la cour, les problèmes de famille, pour ne pas dire de mœurs, pour ne pas dire de sexe. Allez, oui. Voilà, le mot est lancé. Et effectivement, le sexe branche beaucoup le duc de Fronsac, sauf qu'il ne veut pas faire d'enfant à sa femme qu'il n'aime pas, qui est beaucoup plus âgée que lui. Enfin, beaucoup plus âgée que lui. Pour l'époque, c'est 7 ans, 6 ans. Et ce qui est très amusant, c'est que il est sommé de faire un enfant à sa femme, devinez où ? Puisqu'il est à la Bastille.
À la Bastille.
Voilà. Et donc sa femme lui rend régulièrement visite, mais bon, l'affaire ne va pas se conclure. Mais ça montre bien à quel point, selon le statut que vous avez à la Bastille, vous n'êtes pas traité de la même façon.
Oui. Alors il y a quand même quelques vrais grands criminels. Je pense à Damien, évidemment.
Alors voilà encore un autre exemple. En fait, la Bastille est une énorme gare de triage.
C'est ça.
Et elle essaie de régler tous les problèmes.
Il faut dire que Paris est une très grosse ville à l'époque.
Paris, c'est la plus grande ville de la planète.
C'est
à 400 000
habitants.
Entre 400 000 et 500 000 habitants. Et c'est considéré comme une grande révolution quand on commence à voir numéroter les rues. Donc la police a bien du mal. Et donc la Bastille se remplit de toutes sortes de gibier, si je peux me permettre cette expression. Et donc, effectivement, Damien, alors là, on est dans le cas de l'attentat, là, du régicide. Oui, et d'ailleurs, il n'a rien à faire à la Bastille.
Il a voulu attenter à la vie de Louis XV, hein, il faut dire en un mot.
Oui, enfin, c'était symbolique. Hein, il a dit lui-même qu'il s'est servi de la petite lame de son couteau. Il y avait une grande lame. Donc, mais il voulait avertir le roi de tous les problèmes qui désolaient le royaume. Et par conséquent, en fait, Damien n'a pratiquement rien à faire à la Bastille. Il est dans les mains de la justice. Ça encore, c'est une autre... mais vraiment, spécificité de la Bastille, c'est que ça n'est pas un instrument de la justice ordinaire. Si vous êtes dans les mains de la justice, et alors là, ça se passe tout de suite beaucoup plus mal. Moi, j'aurais préféré être à la Bastille que dans les mains de la justice.
Hein. Oui,
parce que, bon, ne parlons pas de Damien, régicide, écartelé dans des conditions absolument atroces. Mais même si vous êtes dans les mains de la justice en temps normal, quand vous vous en sortez bien, ce sont les galères. Donc, mieux vaut être à la Bastille, avec le vin et le pain du roi.
Et puis alors, il y a, après tous ces quelques grands noms évidemment célèbres, le cardinal de Rouen, etc., il y a toute la foule des anonymes. D'ailleurs, il y a beaucoup de roturiers. Hein. On a toujours l'image d'une prison nobiliaire, mais il y a à peu près combien la proportion
c'est... Il y a, de mémoire, un noble pour 4 roturiers.
Oui, voilà, c'est ça. Hein. Donc, beaucoup de roturiers. Et alors, des gens qui sont là pour toutes sortes de raisons, on l'a bien compris. Notamment, alors, il y a des petits escrocs, il y a des tenancières également, il faut le dire.
Oui, parce que...
Il y a quelques femmes.
Oui, alors, une femme pour six hommes, quand même. Mm-hmm. Quand même, pour l'époque, c'est pas mal. Hein. Alors, justement, ce sont souvent des tenancières, des aventurières, qui tiennent des tripots et qui intéressent beaucoup la police, parce que, évidemment, on passe là un tas de gens suspects. La police est très bien renseignée sous l'Ancien Régime, beaucoup mieux que plus tard, si je peux dire. Et donc, effectivement, c'est... Je parlais tout à l'heure de garde de triage, oui, c'est cela. La Bastille, d'abord, a une première vertu. Elle est d'abord le lieu secret de l'interrogatoire par le lieutenant de police. D'ailleurs, chaque prisonnier, quel que soit le motif pour lequel il est la Bastille, est mis au secret tant qu'il n'a pas été interrogé par l'omniprésent, l'omnipotent lieutenant général de police de Paris. Mmh. Et encore une fois, c'est vraiment le personnage principal et qui après... Après avoir rendu son rapport à Versailles, décide si vous restez ou vous ne restez pas à la Bastille. Si vous êtes libéré, ça arrive. Ou si on vous envoie dans une autre maison de force où là vous allez être oublié. Le mot est presque officiel. Il faut qu'on l'oublie.
Oui, on le met hors circuit en quelque sorte.
Voilà, donc ça peut durer effectivement des fois toute une vie.
Alors on a bien compris qu'il ne s'agit pas d'un système pénitentiaire au sens propre.
Correctionnaire.
C'est un système correctionnaire. Quel est le régime? C'est-à-dire il y a des promenades, il y a des heures de repas, ça se passe comment?
Alors, la vie quotidienne à la Bastille, encore une fois, bon, c'est vrai que le statut n'est pas tout à fait le même. Par exemple, en ce qui concerne la nourriture, selon que vous êtes ou que vous n'êtes pas à la table du gouverneur. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est être à la table du gouverneur? On ne vous sort pas de votre cellule pour aller manger chez le gouverneur qui a son hôtel un petit peu à côté de la Bastille, pas dans la Bastille. Mais vous mangez ce que mange le gouverneur.
C'est ça.
C'est quand même pas mal.
C'est-à-dire que c'est le chef du gouverneur qui vous fait vos plats.
C'est quand même pas mal. Sinon, vous êtes à l'ordinaire, mais l'ordinaire est encore très bien. Marmontel, qui est un des témoins de la Bastille, explique que d'ailleurs, il a mangé le repas de son valet parce qu'on pouvait être enfermé avec son valet. Mmh. Ah oui, mais il fallait que le valet dise oui. Mais quand il avait dit oui, il ne pouvait plus sortir tant que son maître ne sortirait pas.
Ah oui.
Ce qui parfois le mettait dans des grandes dépressions.
Vous montrez d'ailleurs le cas d'un maître qui ne supporte plus son valet, mais malheureusement le valet ne peut plus sortir. Maintenant.
C'est la Jonchère, le grand banquier, la Jonchère, qui a détourné des millions de livres et qui continue à vivre sur un grand train de vie dans sa cellule de la Bastille. Ce qui est très amusant, on lui apporte ses meubles, ses tapisseries, sa bibliothèque, sa vaisselle, et son malheureux valet qui a accepté commence à déprimer et à tel point que... Alors, par contre, il ne peut plus sortir.
Eh oui.
Mais alors, la Jonchère, le valet ne supporte plus la Bastille et la Jonchère ne supporte plus le valet. Donc, on est obligé, à la fin, d'enfermer le valet séparément.
Il y a quand même des gens, évidemment, qui souffrent de l'enfermement. Hein, il ne faut pas croire, parce que là, on est en train de peindre de brosser un tableau
riante.
Peut-être un peu riant. Oui, mais en vérité, évidemment, il y a beaucoup de gens qui dépriment, qui font même, disons-le, de la dépression. Il y a même des suicides à la Bastille. Hein.
Quelques suicides à la Bastille,
oui.
Probablement moins qu'à Fleury mais Rogis. Hein.
Oui.
Bien sûr.
Une vingtaine sur les 6000 prisonniers.
20 suicides sur 6000 prisonniers. Oui. Je voudrais bien qu'on connaisse les statistiques d'aujourd'hui. Mais encore une fois, il faut s'imaginer enfermer ces portes qui se referment. La plupart des cellules qui sont très grandes, hein, c'est pratiquement la section d'une tour, ont trois portes. Ah, trois portes, chacune avec trois serrures. Ça fait quand même beaucoup de bruit de ferraille, tout ça. Hein. Donc quand tout ça se referme sur vous et que la nuit a du mal à tomber. Vous êtes forcément pas très guéré, hein. Et donc effectivement, oui, beaucoup de prisonniers dépriment. Beaucoup de prisonniers se plaignent des graffitis de lamentation qui noircissent les murs. Mais oui, ça reste une prison. Je disais tout à l'heure un peu bêtement que ça n'était pas le Club Med. Mais oui, bien sûr, on est dans une prison. Et d'ailleurs, ceux qui sont dans cette Bastille savent très bien pourquoi ils y sont.
Oui, bien sûr. Et on nous demande via Facebook s'il existe une liste de tous les prisonniers. Vous les avez listés, vous
Oui, alors, en fait, il y a une publication de Frank Funbrentano.
Frank Brentano, qui était un des grands historiens chroniqueurs du XVIIIe siècle, dans les années 30. Hein.
Voilà, et qui était donc un conservateur de la bibliothèque de l'Arsenal et qui a publié un ouvrage, un grand in-folio, tout à fait impressionnant, où il a fait une liste, avec beaucoup de failles, beaucoup d'oublis, mais pour lui, des 5279 prisonniers de la Bastille.
Alors, au moment de la Révolution française, combien y a-t-il de prisonniers à la Bastille? Bastille, une fois pour toutes, disons-le, Claude Quettel.
Sept.
Sept personnes. Et ce sont ces sept personnes que va libérer, sans d'ailleurs le vouloir vraiment, la foule des émeutiers. Nous sommes là le 14 juillet 1789.
Europe 1.
Le récit de Franck Ferrand.
Et voici le récit de Franck sur Europe 1 qui s'intéresse aujourd'hui à la prise de la Bastille.
Oui, alors il faut bien comprendre que cette affaire du 14 juillet 1789, cette prise de la Bastille, n'a pas éclaté comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. La France, à ce moment-là, est en grand bouillonnement. Les députés aux États généraux qui sont donc réunis, vous savez, à Versailles depuis le mois de mai, se sont constitués en Assemblée nationale, puis constituante. Cela inquiète beaucoup le roi, dont l'Assemblée menace le pouvoir, évidemment. Et c'est pour faire face à cette montée en puissance que Louis XVI s'est laissé convaincre par son entourage. Il faut bien dire que c'est de l'entourage que ça venait. S'est laissé convaincre de frapper un grand coup. Et pour ça, il faut s'en donner les moyens. Alors, début juillet, le roi fait affluer des troupes vers la capitale depuis Metz, Toul, Soissons, Valenciennes, des régiments. Alors, vous avez les régiments suisses de Rhénan et de Castella, les régiments allemands de Nassau, Bouillon, les cavaliers du Royal Allemand, de Provence Infanterie, Dauphin Dragon, etc. En tout, 6 régiments, 30 000 hommes qui affluent vers la capitale. Et évidemment, ça inquiète les députés. À la tribune de l'Assemblée, Mirabeau a dénoncé ce qu'il appelle des préparatifs de guerre. Et dans le secret du cabinet, le principal ministre, Necker, qu'on appelle Necre à la cour, a désapprouvé ces préparatifs. En fait, ces grands esprits et quelques autres redoutent la montée des peurs de part et d'autre. Tout le monde a peur à ce moment-là. Les députés ont peur. Il ne faut pas oublier que la plupart d'entre eux sont des bourgeois et de grands bourgeois. Ils ont à la fois peur d'un coup d'État royal, mais ils ont aussi peur des désordres populaires. La cour a peur de perdre son pouvoir, évidemment, et de voir s'instaurer l'anarchie. Quant au peuple, il ne faut surtout pas l'oublier. J'ai presque envie de dire le peuple surtout a peur. Peur de la disette, d'une part, mais peur surtout de la répression armée, d'où cette demande permanente d'un départ des troupes. C'est dans cette situation ultra tendue qu'intervient le renvoi du très populaire Necker. Le 11 juillet, Louis XVI lui ordonne de quitter Versailles secrètement, de gagner la Suisse. Et la nouvelle est connue à Paris dans la journée du dimanche 12. Vous savez que le 12, en plus, c'est le dimanche, c'est le jour de la messe. Donc les gens se retrouvent et parlent, évidemment. Et l'on sait que Necker a été renvoyé. Alors au Palais Royal, on connaît la scène. Camille Desmoulins s'insurge. On le voit décrocher, vous savez, la feuille de marronnier sans faire une cocarde de verte, couleur de l'espérance. Ça va être le début des désordres. Le maréchal de Breuil, devenant ministre de la guerre, c'est le baron de Beuzeval qu'il remplace à la tête des troupes de Paris. Et il va confier à un de ses parents, un Lorrain, le prince de Lambesc, le soin de dégager les Tuileries investies par la foule. Lambesc, dans cette affaire, se débrouille très mal. Il est vaincu, il doit retirer ses troupes sur la place Louis XV, la future place de la Concorde. Et tandis que les renforts arrivent des Invalides par le bac, à l'époque on traversait la Seine en bas, qui n'avait pas encore le fameux pont de la Concorde, les gardes françaises se mutinent et pactisent avec la foule. Là, ça commence à tourner vraiment au vinaigre. La nuit du dimanche au lundi voit les armureries pillées, les barrières de la ville incendiées, le couvent Saint-Lazare mis au pillage. Et le lundi 13, Paris se réveille au son du tocsin. Cette fois, ça y est, c'est l'insurrection. À l'hôtel de ville, on va fonder une milice bourgeoise pour la protection des biens et des personnes. 48 000 hommes, à raison de 800 par district. Seulement, il faut armer tout ce monde-là. Il faut trouver des armes. Eh bien, c'est le grand cri aux armes ! Ce qui fait que le mardi 14 juillet, dès l'aube, la capitale est complètement en effervescence. Des milliers de personnes sont à la recherche d'armes pour se défendre d'une attaque prévisible de toutes ces troupes militaires qu'on a stationnées tout autour de Paris. Plus de 100 000 Parisiens vont déferler sur les Invalides où l'on sait que sont réservés quelques 30 000 fusils. Les troupes de Beuzeval à ce moment-là, ça s'écrit Bézenval, vous savez, n'interviennent pas. Le marquis de Sombreuil, qui est le gouverneur des Invalides, se retrouve seul pour affronter cette marée humaine. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il donne aux Invalides, c'est-à-dire, vous savez, à tous les infirmes qui se trouvent dans l'hôtel national, dans l'hôtel royal à l'époque, il leur ordonne de dévisser les chiens des fusils. Seulement, les Invalides guides vont faire preuve de mauvaise volonté. Le comité de l'hôtel de ville envoie un délégué, la foule en profite, elle s'engouffre dans les Invalides. Il va y avoir à ce moment-là fraternisation entre les émeutiers et les Invalides eux-mêmes, et on récupère les 30 000 fusils. Alors maintenant qu'on a les fusils, ben il faut des munitions, il faut de la poudre, il faut des balles. Eh bien, pour ça, dit-on, il faut aller à la Bastille. C'est là que ça se trouve, c'est la Barthe, qui est fourrier aux gardes françaises, qui sait très bien que c'est à la Bastille que ça se situe. Eh bien, voilà la foule qui maintenant est partie vers la Bastille, vers cette immense prison, hein, ces 8 grandes tours dont l'ombre menace depuis si longtemps l'est de Paris. Ça fait une dizaine d'années qu'il était question de la détruire, on l'a dit tout à l'heure avec Claude Quettel. Eh bien, en l'occurrence, on ne va pas attendre qu'elle soit détruite par le pouvoir. Le gouverneur de la Bastille, c'est Jourdan de Launay. Oh, c'est un brave homme, Jourdan de Launay, très droit, un peu soupe au lait, vous voyez, le militaire idéal. À 10h, deux envoyés de l'hôtel de ville se présentent à la Bastille. Alors, Launay leur propose de déjeuner, enfin on dit dîner à l'époque, avec lui. Il décline l'offre, il demande qu'on retire les canons pour ne pas provoquer la foule. C'est chose faite. Et le gouverneur de Launay va plus loin. Il dit qu'on ne défendra pas les bâtiments extérieurs. En revanche, on prépare la défense de l'intérieur. 6 voitures vont réussir à monter toutes sortes de pavés, de ferrailles, etc., qu'on va hisser jusqu'en haut des tours. 3 canons de 8 sont mis en batterie dans la cour du gouvernement, sans compter les 20 000 livres de poudre qui y sont entreposés. 20 000 livres, ça fait 10 tonnes, hein, tout simplement. Il est midi, il faut imaginer la chaleur étouffante. Une deuxième délégation se présente, c'est celle de l'avocat Thuriot, qui vient parler au nom de la nation et de la patrie. Il demande la reddition de la Bastille et le gouverneur répond non, au nom du roi, bien entendu. Qui a-t-il avec lui, Launay ? Ben, pas grand monde. Il a 95 invalides, il a 32 Suisses. Ça fait pas beaucoup pour faire face à cette immense foule, mais c'est un homme d'honneur, je vous l'ai dit. En attendant, 2 gardes françaises, Devanne et Denain, qui connaissent donc bien les lieux, se sont avancés. Ils ont réussi à monter sur le toit de l'avancée, hein, de tout le dispositif armé en avant de la Bastille. Et ce sont eux qui, à grands coups de hache, vont briser les chaînes qui vont faire tomber le pont-levis. Cette fois, ça y est, la foule est en train d'entrer dans la cour du gouvernement.
Fête des barricades, extrait de la BO du film de Robert Enrico, La Révolution française.
Donc ça y est, vous avez bien compris que le premier pont-levis avait cédé. Les émeutiers sont dans la première cour de la Bastille. À ce moment-là, les Suisses font feu. Vous imaginez, ça c'est la trahison. La Bastille assassine le bon peuple. 2 nouvelles délégations se présentent, toujours précédées du pavillon blanc. Hein. Launay ne veut plus rien entendre. Alors là, ça y est, il est complètement crispé maintenant. Et quand la 4e députation se retire, elle va croiser 4 canons des Invalides qui, eux, sont conduits cette fois par Hulin, de l'hôtel de ville. Il y a la 60 gardes françaises encadrées par plusieurs citoyens armés. Le lieutenant Elie dirige une seconde colonne. Et là, on peut dire qu'à l'hôtel de ville, l'excitation a monté d'un cran. Hulin a crié à son tour à la Bastille. Et cette fois, c'est donc le comité officiel de la ville de Paris qui mène l'assaut. La reprise du siège commence dès 4h de l'après-midi. Les gardes tirent à balles contre les murailles. Launay fait riposter à l'aide d'une des pièces d'artillerie qu'il a chargée à mitraille. Seulement, comme ça s'était passé à l'hôtel des Invalides le matin même, les Invalides vont se retourner et y mettent crosse en l'air. Launay, à ce moment-là, menace de tout faire sauter. Il va être empêché de le faire par un premier invalide, qui du reste s'appelle Ferrand, puis par un second qui arrête sa main, Jean-Baptiste Bécard. Seul l'invalide sera tué dans cet assaut. Dans la Bastille, on n'a maintenant plus d'espoir. Alors, la question, c'est de savoir si la Bastille va capituler. C'est ce que voudrait Launay, la capitulation. La garnison aura-t-elle les honneurs de la guerre? Et la foule répond « Non, non, bas le pont !» Alors, Launay écrit un billet. « Nous avons 20 milliers de livres de poudre », écrit-il. « Nous ferons sauter le quartier et la garnison si vous n'acceptez pas notre capitulation ». Et il signe Delaunay de la Bastille à 5 heures du soir, ce 14 juillet 1789. Et Maillard, à ce moment-là, va faire... C'est lui qui transmet les messages hein, entre Launay et les assaillants. Et il passe sur une poutre, il est en équilibre pour porter le message. « On promet de ne faire aucun mal aux défenseurs ». Cette fois, ça y est, le pont-levis est abaissé. C'est une clameur immense. La foule se rue à l'intérieur de la Bastille. Seulement là, on ne va pas du tout respecter la parole donnée. On peut dire qu'à ce moment-là, c'est le massacre qui commence. On commence par pendre plusieurs Suisses et puis l'invalide Bécart qui est tué, qui pourtant avait évité le désastre. Hein. Et puis on maltraite Launay à coups de pique, à coups d'épée. On veut l'emmener à l'hôtel de ville. Non, hurle-t-il, donnez-moi la mort. Alors là, ce sont des coups de baïonnette, de pistolet. Il faut montrer sa tête au public, dit-on dès lors qu'il est mort. Et c'est un cuisinier qui s'appelle Desnaux qui va se charger avec son canif de décapiter le pauvre Launay mort. Et vous savez que la tête de Launay, au bout d'un pic, va faire le tour de Paris dans la liesse populaire. On peut dire, Claude Quettel, que cette prise de la Bastille va devenir le haut fait de la Révolution française, bien entendu. À 19h ce soir-là, le 14 juillet, il y avait 633 assaillants officiels, dont on va faire une liste qui va devenir une liste d'honneur. Fin juillet, la liste comportera déjà 863 noms. Hein, donc tout le monde veut en être, en quelque sorte.
Les vainqueurs de la Bastille.
En fait, ils n'ont pas vaincu grand-chose, finalement.
Non,
un très gros symbole, bien sûr. Hein.
Non, le matin, effectivement, comme vous l'avez dit, il s'agit de chercher des munitions pour les armes qui ont été pillées aux Invalides. Et en quelque sorte, ça n'est qu'une fois que lorsque le peuple, bon, on pourrait discuter qu'est-ce qu'il faut mettre derrière ce mot peuple, enfin, les émeutiers, sont entrés dans la Bastille, qu'on s'avise, en quelque sorte, soudain, que c'est cette fameuse Bastille qui enferme les prisonniers par lettre de cachet. Ça n'était en aucun cas l'objectif
initial. On ne le savait pas, ça.
En aucun cas.
On venait chercher des munitions.
Des munitions. D'ailleurs, c'est très très tard dans la soirée qu'on va dire « Mais au fait, il y a des prisonniers. Où ils sont ?»
Alors, les prisonniers en question, il y a 4 escrocs notoires qui avaient fait de fausses lettres de change, en gros de la fausse monnaie. Oui. Il y avait 2 aliénés mentaux. Alors, les pauvres, ils ne comprennent même pas ce qui leur arrive et on les emmène à l'asile de Charenton, aussi sec. Et puis, il y avait quand même un prisonnier par lettre de cachet qui s'appelait le comte de Solages, mais qui avait été incarcéré à la demande de son propre père pour pédophilie.
Oui, ou inceste, on ne sait pas trop. Enfin bon, un des deux. Enfin, oui. Mais oui, effectivement, c'est quand même le gibier, n'est pas très, très, très important. D'ailleurs, il est tellement peu important que les révolutionnaires vont inventer un faux prisonnier.
Alors, ce qui est... Ben oui, il va falloir en inventer un pour justifier...
Le comte de Lorge. Ça, oui. Alors là, très barbu, très chargé de chaînes, mordu par les rats, bouffé par la vermine, qui va bien servir l'imagerie révolutionnaire, mais qui n'a jamais existé.
Alors, la Bastille est démolie dès le soir même, c'est ça qui est incroyable. Dès le soir du 14 juillet, on commence la démolition.
Oui, c'est tout de même la preuve que, effectivement, la Bastille n'est pas un objectif politique au départ... Mais dès le soir, ça devient, en quelque sorte, le symbole reprend toute sa force, toute sa place, et on commence alors d'abord par piller, jeter effectivement dans les fossés tout ce que la Bastille contient, de meubles et d'archives, et puis même à commencer à mettre les cheminées bas et à commencer à précipiter les pierres dans le fossé. Et cette destruction sauvage va continuer dans les jours qui viennent.
Alors on va dans les pierres de la Bastille fabriquer des petites maquettes de la Bastille. 83, une par département. Hein.
Oui, le fameux Palois, le fameux citoyen Palois, entrepreneur, va dans un premier temps envoyer, alors carrément, il y en a une au musée Carnavalet, pour qui veut la voir, d'une Bastille, d'une réduction de la Bastille, d'une maquette de la Bastille dans une pierre de la Bastille. Puis au bout d'un certain temps, bon, on n'a plus le temps, on n'en verra que des pierres. Et puis,
Avec les pierres de la Bastille, on va construire le fameux pont qui faisait défaut, dont je parlais, le fameux pont de la Concorde qui est construit avec la Bastille, ce qu'on oublie parfois quand on passe dessus, devant l'Assemblée nationale.
Moi-même, je l'oublie, mais je vais essayer de m'en souvenir.
Et vous ne devriez pas l'oublier, Claude Quettel, parce que vous êtes par ailleurs l'auteur d'un ouvrage qui paraît chez Lattès et qui s'appelle « Le mythe du 14 juillet ou la méprise de la Bastille », parce que dès l'année suivante, en 1790, le 14 juillet devient la fête de la Fédération. commémoration. Et puis ensuite, on fêtera de façon assez, assez aléatoire le 14 juillet, jusqu'à ce qu'en 1880, la République décide d'en faire la fête nationale. Donc ça, c'est tout le symbole hein, de cette Bastille. L'enthousiasme de M. Quettel est communicatif, nous dit Isabelle. Ça fait plaisir à entendre et c'est vrai que vous en parlez tellement bien. Comme sont les choses, nous dit Eric, je suis plongé dans ce bouquin, il est passionnant. Mon marque-page est sur le cas de Rohan pour son complot contre Louis XV. Et puis, il y a des questions. Guillaume nous demande, par exemple, quel a été l'âge du plus jeune prisonnier et l'âge du plus vieux parmi tous ces prisonniers de la Bastille. Est-ce qu'on peut dire, en gros, il n'y avait pas d'âge, finalement?
C'est 25 000 $, ça. Ouais.
Non, mais il y avait de très jeunes gens. On l'a vu avec le duc de Fronsac qui avait 16 ans. Hein,
oui, voilà.
Et puis, 16, il y en avait d'autres qui, en revanche, étaient là.
Ceux qui meurent de vieillesse à la Bastille. Donc, vieux, à l'époque, c'est 65, 70 ans.
Oui, c'est ça. Et Isabelle nous dit, il semblerait que les femmes enceintes à la Bastille étaient libérées. Monsieur Quettel, peut-il nous éclaircir sur ce point?
Alors, bon, les quelques femmes enceintes, on les laisse plutôt accoucher à l'extérieur, chez un chirurgien, on disait à l'époque, une espèce de sous-médecin. Et puis, on leur fait réintégrer la Bastille.
Ils ne sont mais il y avait un médecin de la Bastille. Hein,
ça, ah oui, il y a un médecin, bien sûr. Enfin, ce n'est pas un médecin, c'est ce qu'on appelle un chirurgien à l'époque. Mm-hmm. Celui qui fait les saignées, qui constate les décès, qui répare les petits bobos. Mais il y a un médecin, tout comme un confesseur, au hasard jésuite, attaché effectivement en permanence à la Bastille.
Et on se soucie finalement du sort hein, des prisonniers de la Bastille. Là, je reviens un peu avant 1789, bien entendu. Notamment, il y a des rapports sur le moral des prisonniers.
Constamment. Constamment, et des rapports qui ne tombent pas aux oubliettes, c'est le cas de le dire. Des rapports qui s'en vont jusqu'à Versailles et que le roi lit. Alors, Louis XVI un petit peu moins et Louis XIV beaucoup.
Oui. Louis XV aussi
s'intéresse beaucoup à ses prisonniers, à leur morale, qu'est-ce qu'ils deviennent, puis surtout qu'est-ce qu'ils auraient pu dire qu'ils n'avaient pas dit avant.
En fait, la prison de cette Bastille, elle est, comme on dit, sous l'œil du roi.
Sous l'œil du roi.
C'est peut-être la raison pour laquelle on y est nettement mieux traité que dans d'autres prisons d'État hein, à la même époque. C'est qu'on est en quelque sorte, et si j'ose dire avec de grands guillemets, je sens que je ne vais encore pas me faire des amis, mais on est un peu les invités du roi, si l'on peut dire.
Hein, invité, même moi, j'avoue que je n'y aurais pas pensé.
Pensionnaire, allez.
mais vous êtes sous l'œil du roi, ça, je crois que c'est tout à fait ça. Alors que quand vous êtes oublié, alors là, 1000 fois à la Bastille des Mers, au Mont-Saint-Michel, alors là, vous n'êtes plus sous l'œil du roi du tout.
Et, oui. Et donc le fait d'être sous l'œil du roi, le fait d'être en quelque sorte de bénéficier de ce statut un peu particulier,
vous bénéficiez d'un statut.
On n'a pas eu le temps de parler des divertissements, mais il y avait des divertissements à la Bastille aussi. Hein.
Oui, on peut faire de la musique. Dumouriez, le futur vainqueur de Valmy, fait de la cuisine, parce qu'il est comme le cardinal de Rohan, il est très gourmand. Latude apprivoise des pigeons, etc., etc.
La Bastille, dévoilée par ses archives à partir des interrogatoires, des rapports de police, des dénonciations, des témoignages, etc. Tout ça présenté par Claude Quettel, c'est aux éditions Omnibus. Et puis de Claude Quettel, chez Lattès, le mythe du 14 juillet ou la méprise de la Bastille. Ça, c'est le type même d'ouvrage qu'il faut avoir lu pour briller en société parce que vous y révélez un certain nombre de vérités et vous y redressez un certain nombre d'idées fausses et donc ça perd.
Des choses qui fâchent.
Des choses qui fâchent parfois, oui. Mais il faut aussi les dire parce qu'on a tellement tendance à vivre parfois sur d'anciens mythes et sur d'anciennes légendes. Merci beaucoup, Claude Quettel, de nous avoir fait partager ce qu'Isabelle appelle votre enthousiasme communicatif. We'll be right back.